c'est pas facile de choisir un passage biblique parce qu'il dit tout de suite ce qui tient à cœur d'un futur éventuel potentiel pasteur. Ce que j'aime, la première fois que je suis rentré dans cette salle, c'est cette peinture. On aime, on n'aime pas, mais la centralité du Christ me fait me souvenir que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Ça doit être une des spécificités de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est dans les enseignements de Jésus-Christ que j'ai choisi la méditation d'aujourd'hui, qu'elle nourrisse chacune de nos vies. Une église normale est une église en chantier, un chantier non abandonné. Il est bon de savoir que nous sommes en route, mais seulement en chantier, et pas arrivé, mais ouvert à la transformation que le Seigneur veut opérer dans nos vies. Je fais une lecture tirée de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 7e. C'est la fin d'un discours de Jésus, appelé parfois « Sermon sur la montagne ». Ainsi, tout homme qui entend les paroles que je viens de dire, dit Jésus, et les met en pratique, peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Merci. Un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme fou ou insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, elle s'est écroulée et grande fut sa ruine. J'ai mis comme titre les deux façons de construire ou qu'est-ce qui peut faire durer un projet de vie. Ce texte, connu, tiré des évangiles, est utile pour tout chrétien. Il ne serait pas dans notre Bible sinon. Les jeunes, les moins jeunes, qu'ils, et quel que soit le lieu où ils sont sur cette terre, les applications de cet enseignement vont être multiples. Le principe qu'on va dégager va être utile pour chacun et chacune d'entre nous. Il est commun d'imaginer la vie chrétienne comme une simple partie d'amour, partie de plaisir, sans discipline, sans règles, où tout coule de source. Un peu à la manière d'un couple qui s'aime et qui n'aura pas besoin de règles pour savoir comment se comporter, au moins au début. Aucune règle ne régit ce qu'ils ont à faire, ils s'aiment et c'est tout. Personne ne leur apprend ce qu'il faut faire ou ne pas faire, parce qu'ils s'aiment, heureusement d'ailleurs. S'il est évident qu'il vaut mieux que la vie de couple débute ainsi, il n'est pas sûr qu'elle se poursuive longtemps ainsi. Enfin, chez nous au moins. Nous vivons, vous le savez, dans un temps de démariage. Je ne sais pas si ce mot est orthodoxe, mais je l'utilise. Ou bien des maisons, malheureusement, ne tiennent pas dans la durée. C'est vrai pour des couples, c'est aussi vrai pour des églises, c'est aussi vrai pour l'attachement à la foi au travers des générations. Est-ce que je peux demander de lever la main ceux qui confessent la foi dans le Seigneur Jésus depuis au moins 3 générations? C'est une bonne moitié, hein? C'est une bénédiction. Je m'interroge en considérant au fil du temps le destin de telle union également de ce qu'il advient de la foi au passage des générations, de telle ou telle église également. Bien commencer, c'est comme le couple, c'est facile. Continuer dans la durée, c'est une autre chose. Il ne faut pas moins que la force du Saint-Esprit ait la centralité de la parole du Christ pour que quelque chose dans la durée advienne. Et les deux façons de bâtir ont un rapport avec la durée d'un projet et pas d'un autre. Il n'est pas rare qu'on se trompe sur les pronostics. Tel couple tient ou tel couple ne tient pas. Moi, je ne connais pas de règle absolue. Qu'est-ce qui fait que dans tel cas, cela semble bien se passer et dans tel autre, il semble que le fil de la foi ou de l'amour se relâche et même parfois casse dans la durée? Sommes-nous si impuissants devant ce qui nous advient? Alors, je ne suis pas naïf. Je sais qu'on ne vit pas les mêmes choses les uns et les autres. Je sais qu'il y a des circonstances de la vie différentes. Je sais qu'il faut laisser la place à la liberté des uns et des autres, des options prises et de leurs conséquences. Qu'est-ce qui peut faire durer un projet? C'est la question, c'est le thème de cet enseignement de Jésus. Dans un couple, on observe un certain nombre de principes qui, petit à petit, se dégagent. Vous en connaîtriez, ce serait intéressant de vous interroger sur le sujet. Hein. Ça n'étouffe pas nécessairement les relations, les principes. Ça même, ça clarifie la relation. Chez nous, au moins, il y en a quelques-uns du style « refus de manipuler l'autre ». C'est déjà pas mal, hein, ça fait durer. Respect, sans fusion de la personnalité des deux. Il ne s'agit pas d'une fusion, il s'agit d'un mariage. Ajustement périodique nécessaire, au moins chez nous, hein. Réaccorder nos violons. Souplesse également, soin de soi et égard pour l'autre. Équité dans les tâches ménagères, au moins chez nous. Mais ça s'apprend, hein. Le chantier est ouvert, mais également surprise occasionnelle, pardon également. Il en va de même quand on bâtit un projet de vie, qu'on soit marié ou pas, veuf, célibataire, divorcé, nous sommes tous attelés à quelque chose dans laquelle nous aimerions trouver du contentement et de la sécurité. L'adoration, c'est important. J'aime bien périodiquement. Par principe, je viens au culte pour me recentrer sur l'auteur de la vie. C'est pour ça qu'il y a le culte, un recentrage périodique. J'en ai besoin, parce que j'ai besoin de me recentrer. Nous avons besoin. Également, l'étude de la Bible, de ce que le Christ veut pour moi, pour nous, pour l'Église. Mais il y a des facteurs qui contribuent au renouvellement des projets de vie et à la durée de le projet de vie. Nous allons essayer d'en découvrir et d'en souligner l'un ou l'autre ici. Donc c'est l'histoire de la construction et du destin de deux maisons, la construction de deux projets de vie. Un ami m'a fait ce dessin, je lui en sais gré, et il y a là une maison où il semble qu'il fait bon vivre, et d'autres maisons qui regardent. On ne sait pas ce que vivent les autres maisons. La maison, deux maisons. La maison symbolise une aspiration universelle, nous l'avons dit. On court en fait tous après quelque chose. Ce n'est pas bien défini, mais qu'est-ce qu'on court pour le trouver? On ne sait pas exactement après quoi on court, mais on court, je vous le dis, dans le monde. Nous nous démenons pour qu'arrive ce qui nous comblera. On ne sait pas exactement ce qui va nous combler. Mais on court, je vous l'assure, on se le cherche. La maison symbolise la sécurité. Quand il pleut, quand il vente, quand il fait froid, quand il y a, comme dans les ouèdes de Palestine et d'Israël, des torrents qui viennent après la pluie. Là, je serai à l'abri, pour moi ainsi que tous ceux qui occupent la maison. Une protection contre les forces de destruction naturelle. c'est physique, mais ça peut aussi être transposé, symbole. Après quoi je cours ? Construire une maison sur un plan symbolique, c'est ce que nous faisons tous, en église ou seul. Nous le faisons tous. C'est la recherche d'une sécurité. Il est légitime dès lors de nous poser la question, qu'est-ce qui constitue ma sécurité, honnêtement ? Ce serait un bel exercice qu'on ait la lucidité et l'honnêteté de l'écrire sur une feuille. Je me sentirai en sécurité si... Et vous noircissez la feuille. C'est rare qu'on ait comme thème la question de la sécurité dans une église. C'est pourtant tellement central à nos vies. La maison que je construis, nous aspirons à un cadre de vie sécurisé où on entre, où on sort, des gens de toutes les générations peuvent en faire partie. Je n'aspire pas à la solitude, ça m'insécurise, qu'on soit âgé ou qu'on soit jeune. On n'est pas fait pour être seul. On est sécurisé quand on a la subsistance élémentaire. Je ne sais pas quel est l'élémentaire. Ça vaut la peine de travailler sur l'élémentaire. Parce qu'une fois qu'on a défini l'élémentaire, je saurai qu'est-ce qui est superflu. Rarement la publicité nous aide à distinguer l'élémentaire du superflu. Vous savez pourquoi ? Ça ne fait pas nécessairement vendre. Une des maisons est construite sur le rocher. Là, on ne le voit pas. On le devine. Il semble que Jésus se soit à plusieurs reprises référé à cette image d'un bâtiment construit. Je vous rends juste attentif. Jésus dit à Pierre, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. » Vous connaissez ce passage, certainement. C'est l'image de quelque chose d'inébranlable. C'est la confession de la seigneurie de Jésus. Là-dessus, la puissance même de la mort, qui peut revêtir différentes formes, ne prévaut pas contre ce projet. Matthieu 16, 18. Pierre, un peu avant les autres, avait identifié Jésus comme le Messie, le Fils du Dieu vivant. Cette confession constitue un fondement dans la durée sur lequel Jésus lui-même bâtit. Elle semble avoir une longévité assurée. Bâtir sur le roc. Mais ce n'est pas explicite dans le texte. Il y a, du temps de Jésus, une maison qui est bâtie sur un roc. Le temple de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il est arrivé du temple de Jérusalem en l'an 70 ? Vous voyez, je commence à utiliser le vocabulaire. Destruction. Ce qui constituait l'assurance symbolique la plus forte pour la foi juive s'est écroulé. Alors qu'il y avait des attentes d'un gouvernement mondial de Dieu à partir de ce temple, voilà que c'est la fin des haricots. Le temple qui venait d'être terminé par Hérode sur le mont Morija, sur l'esplanade du temple, endroit où Dieu a pourvu à la place du sacrifice d'Isaac. À la place du sacrifice d'Isaac, le rocher. La foi d'Abraham est aussi symbole d'un rocher. La foi en Dieu. Les gens avaient confiance en l'invulnérabilité du temple, même si on n'y tolérait l'injustice. Et les prophètes déjà avaient dit que le temple ne tiendrait pas avec une religion qui tolère le manque de miséricorde. D'ailleurs, aucune société du monde qui manquerait de miséricorde tient la route. De notre vivant, la majorité d'ici, nous avons vu l'écroulement d'une énorme maison qui s'appelait l'Union soviétique, essentiellement par manque de miséricorde. Le culte des lèvres ne sauvera pas le temple ou ce projet de vie. Alors, on parle de la maison, nous en avons parlé. On va parler du sage et du fou, si vous voulez bien. un sage et un fou construisent. Jusque-là, on est bien d'accord. Une personne qui construit avec une fondation et l'autre sans fondement, fondation. Lorsque tout va bien, la fondation n'est pas visible. On ne reconnaîtra pas un fou et un sage quand tout va bien. Vous et moi, nous sommes dupes. Mais notez que le sage comme le fou sont auditeurs de Jésus. Ainsi en est-il de quiconque entend les paroles que je, dit Jésus, viens de dire, est semblable à un sage ou un fou en fonction qu'il met en pratique ou pas. Donc, c'est des gens de l'Église. Enfin, c'est des gens de l'équipe de Jésus. Le sage et le fou, ce ne sont pas des païens et des chrétiens. C'est parmi les chrétiens des sages et des fous. Le texte le dit lui-même. Dans les deux cas, il s'agit de ceux qui entendent les paroles que je viens de dire. C'est donc des évangéliques, puisqu'ils connaissent Jésus. Ils l'ont entendu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être je suis le fou à certains moments. Les deux projets de vie représentent ainsi des projets de disciples de Jésus-Christ. Il s'agit de deux types d'auditeurs de Jésus. Alors vous voyez, c'est quand même un peu gonflé. Voilà un pasteur qui ne parle pas du pastorat, mais il parle des auditeurs. Je suis aussi auditeur de cette parole, en même temps que vous. En chantier, certes, mais un auditeur. Une invitation pressante à être des bons auditeurs. C'est Jésus lui-même qui nous le donne. Ce qui révèle le fondement, ce sont les épreuves, même la totale, par-dessus, par-dessous et de côté. C'est la totale. Il y a des temps dans la vie où l'attitude de vie parle plus que tout, parle plus quand ça va mal que quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile d'avoir un discours. Quand on est dans l'épreuve, c'est plus difficile, plus révélateur. L'épreuve ici est une épreuve totale, nous l'avons dit. Il nous faut transposer. La totale en question peut représenter la mort du maître pour ses disciples. C'était la catastrophe. L'échec apparent de l'espérance, nous l'avons dit. L'épreuve peut également désigner ce qui est arrivé une génération après, avec le temple de Jérusalem, qui est détruit par les troupes de Titus, ou également dans le livre de l'Apocalypse. L'épreuve, c'est le contrôle d'un régime totalitaire qui divinise l'empereur et qui demandait qu'on fasse tous un culte de l'empereur, à l'empereur. C'était la totale. Peu importe, il nous faut transposer. Ce qui est important de relever, c'est que la préparation a lieu pour résister à l'épreuve totale avant l'épreuve. Le manque d'entraînement avant l'épreuve fera que dans l'épreuve, je ne tiendrai pas la route. Pour que notre projet chrétien, quelle que soit son échelle, tienne dans les temps difficiles, il faut s'entraîner à mettre en pratique sérieusement les commandements de Jésus. Et ceux-ci sont toujours en faveur d'une vie fraternelle. Nos définitions de sécurité sont des fois en ma faveur égoïste, plus que nous le croyons. Qu'est-ce qui fera que je suis en sécurité dans une maisonnée si ce n'est pas l'application des commandements de Jésus qui sont en faveur de la relation? La tempête parfaite est le jour du jugement, je n'en doute pas du tout, dont l'Écriture nous parle aussi. Mais ici, Jésus a en vue les temps d'épreuve dans notre histoire, d'église ou bien de famille ou d'individu. Remarquez que le fou comme le sage sont soumis à la même épreuve. Vous ne reconnaîtrez pas un sage parce qu'il n'a pas d'épreuve. Ce n'est pas à la tempête ou à l'absence de tempête que l'on distinguera le fou du sage, mais c'est dans la tempête. Pour le fou, c'est au moment où il aurait le plus besoin de la protection de la maison qu'il ne pourra pas en profiter. Et Jésus dit, il en est pour quelque chose. Ce que cherche le Seigneur, ce n'est pas seulement de bons prédicateurs fidèles à Jésus-Christ, mais il vaut mieux en avoir, mais aussi, et dans ce cas-là, avant tout, de bons auditeurs, c'est-à-dire des pratiquants des commandements de Jésus, nous autres,
l'Église de Jésus. L'un des buts du culte, c'est précisément la transformation ou l'application en moi du caractère de Jésus-Christ à son image. Nous sommes en chantier à son image et ce chantier ne doit pas être délaissé. Cet entraînement va contribuer à durer dans le témoignage. Je vous donne un cas de figure, cet exemple tout simple. Il en est notoire qu'il y a des ruines dans les relations d'église, dans les relations de couple, dans les relations de voisinage, qui sont dues à des colères sur lesquelles on ne travaille pas. La colère, c'est comme une cocotte minute quand ça explose. Ça fait du dégât. Et la conversion initiale à Jésus-Christ ne nous libère pas de ça, si on n'y travaille pas, n'est-ce pas ? Ça s'appelle sanctification chez les uns, ça s'appelle vie de disciple chez les autres. Peu importe comment on le nomme, l'important c'est qu'on soit sérieux en travaillant dessus. Aucun de nous n'est parfait. Sur la convoitise, c'est pareil. Si je ne fais pas du ménage dans mon être intérieur, c'est-à-dire dans mon scénario mental, la convoitise va me mener par le bout du nez. Et alors je ressemblerai éventuellement même dans une église évangélique ou quelle que soit la dénomination, à ces gens du temple qui ont transformé le temple, malgré des beaux cantiques, en une caverne de voleurs. Ce qui amène la ruine du temple. Ma femme sait que mon épreuve en ce moment, ce n'est pas tellement de me faire comprendre, c'est les 20 minutes qu'on m'a octroyées. Le rocher et le sable. L'Évangile nous dit « Ainsi en est-il de quiconque entend les paroles que je viens de dire, dit Jésus, et les met en pratique, il est semblable à une personne qui a construit sur le roc. » Le roc, vous en conviendrez, c'est une image. Vous êtes d'accord ? Oui. Vous êtes d'accord ? C'est une image. Une image d'une réalité qu'on va essayer de nommer ici. C'est quoi le roc sur lequel on doit construire ? Je vous écoute. Dites-moi ça. Le Messie Jésus. Ah ben, oui. Oui, la mise en pratique de quoi ? De l'enseignement de Jésus. Vous voyez, quand vous dites Jésus ou la Bible, c'est une réponse partielle. En fait, non. Parce que le fou aussi, il est dans l'école de Jésus, mais il ne fait pas une chose, la mise en pratique de l'enseignement de Jésus. Le rocher, ici, ailleurs, c'est Jésus. Le rocher qui le suivait, c'était le Christ. Mais ici, c'est une autre image. Celui qui construit sur le rocher n'est pas Jésus en tant que tel, mais c'est la mise en pratique de ce que je comprends de Jésus. Le rocher qui aide à tenir, ce n'est pas Jésus. Pardon, ça on n'a pas l'habitude, ça choque un petit peu quand on dit ça, n'est-ce pas ? Bien sûr, c'est lui, mais au travers de la mise en pratique, de la prise au sérieux de cette transformation en moi à l'image de Jésus. Le roc, c'est la mise en pratique dans les petits gestes de tous les jours de l'enseignement de Jésus. On est un peu trompé aussi par nos chants pieux. J'aime les chants. J'aime bien les analyser aussi. Vous savez, les chants et l'évangile, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses, toujours. Vous connaissez peut-être, vous étiez à l'école de dimanche comme moi, qui disait « Le fou sur le sable » et voilà. « Le sage sur le roc vient bâtir sur Jésus. » En fait, c'est qu'une demi-vérité. C'est bien pour les enfants, mais c'est plus bon pour nous, hein. En fait, sur Jésus, oui, mais sur l'application de ce que je comprends que Jésus veut de moi. Autrement dit, Jésus nous dit aujourd'hui, prends au sérieux ce que je te dis, mets-le maintenant en pratique pour résister dans les temps plus difficiles qui viendront. Aussi en anglais, On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Sur le Christ, le roc solide, je me tiens, tout autre fondement est du sable mouvant. C'est aussi une demi-vérité. Comme le fou sur le sable qu'on a appris à l'école des dimanches. Ça fait rien. Dans mon bulletin, il y avait souvent marqué « peut mieux faire ». C'était un compliment. Il croyait que je pouvais. Nous avons parlé du rocher. Vous avez vu l'image à gauche ? Voici le type de rocher que les tempêtes ne pourront pas mettre à mal. J'ai trouvé du sable avec des traces de dromadaire. Là-dessus, il y a de l'inconsistance. L'inconsistance, c'est la conception de la vie chrétienne qui se contente d'écouter. D'écouter. J'aime écouter Jésus ne suffit pas. J'aime prendre au sérieux l'enseignement de Jésus chaque fois qu'il se présente dans tous les domaines de ma vie. Contrairement à ce que nous a enseigné Socrate, lui disait, il suffit de connaître le bien pour être en mesure de le faire. Jésus dit, c'est pas vrai. Jésus dit, entraîne-toi, c'est important, de telle sorte que tu résisteras et que tu auras de l'entraînement au moment de l'épreuve. Car les forces de conformisme ambiant de nos propres égoïsmes sont à l'œuvre. Par exemple, la tentation de la violence, si je ne travaille pas sur ma violence intérieure. Par exemple, l'avidité qui est en moi, si je ne travaille pas dessus, j'aurai jamais assez dans mes réserves. Une quantité de choses pour le quotidien de la vie qui nous aide à prendre l'enseignement de Jésus au sérieux. J'aimerais conclure avec quelques pistes. La première, les forces de conformisme sont à l'œuvre. On dit qu'aujourd'hui, en Suisse, chacun des Suisses, en moyenne, est exposé à 3000 publicités directes ou indirectes qui produisent des besoins. Mes amis, il faut compenser avec l'enseignement du Christ. Sinon, je donne pas cher de le conformisme dans lequel toutes ces publicités vont nous modeler. Je ne suis pas contre les publicités, mais contre le fait d'être mené par le bout du nez, par nos désirs. Une vie généreuse, ça se travaille par la force du Saint-Esprit à l'écoute du Seigneur. La deuxième, il nous faut pratiquer l'enseignement de Jésus dans tous les domaines. Nous prenons ceci comme une invitation à prendre au sérieux ce qui a commencé avec la nouvelle naissance. Si nous voulons devenir un bon joueur de guitare, il faut d'abord commencer par des accords simples. Et c'est que plus tard, à force de pratique, que l'on arrive à jouer des choses plus complexes, jusqu'à le faire des fois instinctivement sans trop plus réfléchir. Il en va de même pour la vie chrétienne, c'est une culture. Il nous faut choisir nos conditionnements. Avec Jésus et ensemble, nous triomphons des forces de destruction. Et les forces de la mort ne prévaudront pas contre cette Église qui confesse Jésus comme le Seigneur. La stabilité et la sécurité dans la durée sont à chercher dans une école de la miséricorde. Ne manquons pas d'entraînement. Et les capacités pour faire du bien chez chacun et chacune d'entre nous sont si grandes quand elles sont mises au service du Seigneur. La parole n'est pas seulement là pour nous informer ou pour nous intéresser, mais pour nous transformer à l'image de Jésus. Tous les chrétiens doivent célébrer et vibrer pour cela. Nous sommes en route vers cette autre culture plus conforme à Jésus. Nous sommes en route et nous resterons des apprentis jusqu'à la fin de notre vie. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Un de mes professeurs que j'aimais beaucoup a dit « Notre obéissance à Jésus sera toujours imparfaite. » Ça va ? Et il continue. « Ce n'est pas une raison pour laquelle elle ne doit pas être sincère et entière. » Enfin, dans ce projet, Jésus nous assure de sa présence et de la pérennité de notre témoignage. Je suis avec vous tous les jours. Amen.